Alors, 1 Corinthiens 15, 20 à 58, c'est la page 753. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Mais chacun a son, à son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra, et celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi offre-t-on-nous à toute heure de danger? Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu toutes les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de son bon sens. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il le veut. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère, même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, a un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur du ciel, tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous ne serons transformés. En annonçant un éclat d'œil au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptible et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aussi revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur.
Merci de garder le passage devant vous. Alors, si vous étiez sûr de vivre à jamais, comment changeriez-vous votre vie? Est-ce que vous voudriez démissionner? Peut-être vous l'avez déjà fait. Est-ce que vous voudriez travailler à temps partiel? Ou est-ce que vous voudriez acheter une maison sur une île du Pacifique? Nous avons vu lors de notre exposé précédent que la résurrection de Jésus-Christ était un événement historique. Pour la toute première fois, il y a eu un homme qui est revenu d'entre les morts et il est encore vivant aujourd'hui. Et le but du passage qu'on a sous les yeux aujourd'hui est de nous convaincre que l'existence physique après la mort est possible non seulement pour Jésus, mais également pour nous. Plus précisément, la résurrection physique de Jésus garantit la résurrection physique de l'humanité. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des conceptions de l'au-delà qui sont spirituelles ou peut-être désincarnées. Tout comme les Corinthiens auxquels Paul écrivait, nous aussi avons l'habitude de croire que le corps humain n'est qu'une coquille pour nos âmes et qu'après la mort, il n'y a rien d'autre qu'un paradis céleste ou le nirvana ou peut-être juste l'anéantissement. Pourtant, il y a quelque chose en nous qui nous dit que cela ne suffit pas. Au fond de nous-mêmes, nous sommes rongés par le désir de la vie éternelle et de la vie physique. Et par contraste, nos conceptions spirituelles du paradis sont plus une compensation qu'une restauration. Vu que les Corinthiens manquaient d'une conception physique de l'éternité, ils se sont trompés sur leur vie présente. Et cela vaut pour nous aussi. Si nous croyons à l'au-delà, ce n'est sans doute pas physique. Nous faisons comme si cette vie, c'était la seule qu'il nous fallait apprécier. Donc, notre but aujourd'hui est de nous convaincre qu'une éternité physique après la mort est à la fois une solution satisfaisante pour nos soupirs et une solution biblique. Et quand nous comprendrons cela, notre perspective sur l'éternité changera et notre vie dans le présent sera bouleversée aussi. Alors, qu'est-ce qui doit se passer pour nous procurer une résurrection corporelle et physique? En d'autres termes, comment la résurrection de Jésus garantit-elle la nôtre? Ah, c'est notre premier point sur les canevas. La mort vaincue. Dans la Bible, la mort est présentée comme un ennemi. Il s'agit d'un monstre terrifiant qui détruit, qui dévore. Ah, pensez au dragon Smaug dans les films du Hobbit, par exemple. Verset 26 dit ceci. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort, c'est le grand ennemi. Mais grâce à la résurrection de Jésus, c'est un ennemi vaincu. Voyez les versets 54 à 57. La mort a été engloutie dans la victoire. Enfer, où est ta victoire? Verset 57. Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus, elle a été la lance qui a percé le cou du dragon, c'est-à-dire la mort. Et de plus, la victoire de Jésus devient notre victoire aussi. Verset 57 nous dit que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que la victoire Jésus devient-elle la nôtre? La Bible présente deux chefs de l'humanité, deux capitaines de l'équipe de foot, si vous voulez, Adam et Christ. Pensez à Bastian Schweinsteiger et Hugo Lloris. Adam, le premier être humain, il s'est rébellé contre Dieu, amenant le mal et la mort dans le monde. Il ne s'est pas occupé du monde comme Dieu l'avait ordonné. Et chaque être humain, y compris vous et moi, l'a suivi. Par nature, nous appartenons tous à l'équipe d'Adam. Et tout comme les actions du capitaine de l'équipe affectent l'équipe entière, les actions d'Adam ont également affecté le reste de l'humanité. Si vous ne me croyez pas, il faut simplement regarder les infos. Il faut simplement regarder votre cœur. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam. Christ, par contre, il n'est pas simplement un autre capitaine d'équipe comme le Portugal contre la France. Christ est le nouvel Adam, le chef d'une nouvelle humanité. Christ est celui qui réparera les dégâts que Adam et son équipe ont faits. Christ régnera parfaitement, contrairement à l'exemple d'Adam. Et Paul nous montre cela de main de maître en citant deux psaumes au verset 25 à 27. Verset 25, « En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. » Donc, le psaume 8, cité au verset 27, parle de l'humanité qui règne sur la création. Et le psaume 110, cité au verset 25, parle du roi divin de Dieu. Donc, le message est incontestable. Jésus-Christ est le chef de toute la terre, un roi à la fois divin et humain, Dieu lui-même. Et ce roi divin et humain ne règne ni en promulguant des nouvelles lois, ni en demandant un référendum. Comment il règne? Verset 26, au milieu, il règne en anéantissant la mort. Alors, les gens disent souvent que Dieu se fiche de la souffrance et il ne fait rien pour résoudre les problèmes dans le monde. Mais Dieu ne répare ce qui a été détruit comme un maçon réparerait une maison avec du scotch. Non, Dieu règle les problèmes du monde en envoyant le roi Jésus qui les arrangera entièrement, à commencer par nous-mêmes. Donc, quand Paul dit que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, il dit que grâce à la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons être transférés dans l'équipe de Jésus. Le montant de ce transfert est gratuit, mais ça a coûté cher à Jésus. Son sang est le prix de transfert. Pour changer l'image, imaginez du fil et une aiguille. Jésus est l'aiguille qui passe à travers le rideau de la mort. Nous sommes le fil uni à Jésus qui le suit ou qui le suivra à travers la mort aussi. La résurrection de Jésus garantit la nôtre. Et j'espère que cela change notre perspective de Jésus. Jésus n'est ni un enseignant, ni un personnage de l'art religieux. Non, il est le chef d'une nouvelle humanité qui a vaincu la mort à jamais. Donc, le christianisme n'est pas juste un passe-temps. C'est pas une religion de dimanche. Non, il s'agit d'appartenir à l'équipe de Jésus et de participer dans sa victoire. Verset 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais vous vous dites, je comprends que Jésus proclame la victoire sur la mort, mais le monde autour de moi est plein de morts et de violence. Et moi, je suis sûr que il y a certains d'entre nous pour qui la mort est un sujet sensible. Même pour les chrétiens, la mort peut être douloureuse ou accablante. Donc, où se trouve cette victoire sur la mort? Quand est-ce qu'on la verra? C'est notre deuxième point, la mort vaincue par la résurrection. Vu que le plan de Dieu est de réparer les dégâts causés par Adam et par nous, à travers la mort et la résurrection de Jésus, nous devons comprendre que cela consiste à recréer tout l'univers. Pensez-y un instant. La mort ne peut être véritablement vaincue que quand la vie physique et corporelle est restaurée. Flotter comme un esprit désincarné ou être dans le nirvana, ça n'est pas la victoire sur la mort. Ce n'est qu'une compensation. La mort est l'interruption de la vie physique sur Terre. Donc, pour avoir la victoire sur la mort, il faut être une restauration totale de la vie physique. Il faut être une résurrection. Peut-être vous vous sentez un peu comme les Corinthiens qui considéraient l'idée de la résurrection comme des bêtises. Si oui, Paul a des mots forts pour nous. Versets 35 et 37. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens. Alors, malgré les apparences, Paul veut nous faire comprendre que la résurrection n'est pas impossible. C'est tout à fait naturel. Et il fait l'analogie d'une plante pour nous aider. Voyez les versets 36 à 38. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Quand j'avais 16 ans, j'ai visité le parc national des séquoias en Californie, où on peut voir certains des plus grands arbres du monde. Et un des arbres était si grand qu'il fallait 38 personnes qui se donnaient la main pour l'entourer. Donc c'est aussi grand que ça. Alors, lorsqu'on regardait cet arbre, il était presque impossible d'imaginer que cet arbre provenait d'une graine, d'une simple graine comme ça. Mais c'était le cas. Et c'est ça l'analogie que Paul nous donne concernant la résurrection de l'humanité. Il continue au verset 42. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Paul, il ne prétend pas comprendre la dimension scientifique de la résurrection. Il appelle un mystère au verset 51. Mais il ne nie pas sa réalité. La résurrection des morts est comme une semence plantée dans la terre. Elle est mise dans la terre comme un cadavre. Mais elle émergera du sol comme un corps glorieux et immortel, un séquoia si vous voulez. À ce moment, nos corps sont naturels, comme celui d'Adam. Nous ressentons chaque jour la bataille contre la fatigue ou le cancer. Les chrétiens luttent contre le péché. Mais un jour, ceux qui appartiennent à Jésus recevront des corps nouveaux. Et quand Jésus reviendra, il habillera son équipe en corps nouveau. Verset 53. Jetez un coup d'œil au verset 42 et 53 et voyez comment Paul décrit ces corps nouveaux. Ils sont incorruptibles, glorieux, spirituels, c'est-à-dire remplis de l'Esprit Saint, portant l'image de Jésus, immortels. C'est-à-dire, il n'y aura plus ni de maladie, ni de douleur, ni de dépression, ni d'anxiété. Et si Dieu va faire tout cela pour nos corps humains, il est évident qu'il le fera pour tout l'univers aussi. Un corps glorieux devra habiter un monde glorieux, un monde incroyable. Est-ce que vous voyez la portée du plan de Dieu pour son monde? Il n'a pas l'intention de construire des hôpitaux ni de lancer des programmes d'éducation. Son intention n'est même pas simplement de pardonner des péchés. Non, Dieu est en train de recréer l'univers. Et est-ce que vous voyez que Dieu est passionné par le monde physique? Ça peut sonner spirituel de parler de la vision béatifique ou des nuages. Mais si nous n'avons pas une grande vision du monde physique, nous déshonorons Dieu. Puis-je vous suggérer que chacun de vos désirs les plus profonds devient une réalité dans ce passage? Lorsque tout cela arrive, lorsque la semence devient un arbre, lorsque le Jonathan Forster corruptible devient le Jonathan Forster incorruptible, lorsque Dieu recrée l'univers, verset 54, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Le monstre de la mort a été mortellement blessé à la croix de Jésus. Et quand Jésus reviendra et qu'il habillera son nouvelle humanité en corps nouveau, le monstre aura été englouti et n'apparaîtra plus jamais. La résurrection de Jésus était comme les premières lueurs de l'aube. La résurrection de l'humanité sera comme le soleil éclatant du midi. La mort est vaincue par la résurrection. Alors, jusqu'où est-ce que cela nous amène? Jésus est mort et il est ressuscité, mais nous attendons son retour. À quoi votre vie devrait-elle ressembler dans l'intervalle, dans le présent? Troisièmement, la mort ou la résurrection dans l'intervalle. La façon dont vous vivez votre vie nous montre le monde pour lequel vous vivez. Je répète, la façon dont vous vivez votre vie nous montre le monde pour lequel vous vivez. Pour revenir à la question du début, si vous étiez sûr de vivre à jamais, comment changeriez-vous votre vie dans le présent? Ne vous inquiétez pas, Paul nous a déjà donné la bonne réponse. Si un avenir si glorieux attend ceux qui croient en Jésus, alors nous devrions faire tout pour y arriver et pour amener d'autres personnes avec nous. Verset 58, Paul conclut ce chapitre et cette lettre en disant « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » L'œuvre du Seigneur est de recréer l'univers à travers Jésus. Donc, Paul encourage les disciples de Jésus de s'engager à parler de cet avenir glorieux. Paul savait qu'il vivrait à jamais, donc il a utilisé sa vie pour parler. Verset 31, Paul dit « Chaque jour, je risque la mort. » Paul avait témoigné du Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Et c'est pour cela qu'il parle de la résurrection dans ce chapitre avec autorité. Il a vu le Jésus ressuscité. Et parce qu'il sait que c'est vrai, il donne sa vie pour faire connaître ce message. Il voyage partout pour parler à ceux qui ne sont pas encore convaincus. Il rappelle à ceux qui sont déjà son importance. C'était un travail dur. En un sens, c'était la mort au quotidien. Peut-être la mort sociale au travail, ou bien la mort émotionnelle dans la famille, ou même la mort physique, comme c'était le cas pour Paul. Mais savoir que vous vivrez pour l'éternité signifie que vous serez prêt à mourir aujourd'hui. Bien sûr, il y a une deuxième option. Si une éternité parfaite dans un monde glorieux n'est pas votre tasse de thé, alors peut-être le verset 32 est pour vous. Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Cette vie-ci sera une question de mâcher la bouffe et de siffler des cocktails, et ensuite, c'est fini. La façon dont vous vivez votre vie nous montre le monde pour lequel vous vivez. Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous vivez pour ce monde-ci et jouez pour l'équipe d'Adam? Vous êtes du côté des perdants. Pourquoi ne pas venir à Jésus pour le pardon qu'il offre? Mais est-ce que vous vivez pour le monde à venir et jouez dans l'équipe de Jésus? Il nous a donné la victoire. Bizarrement, les Corinthiens jouaient dans l'équipe de Jésus, mais ils vivaient selon celle d'Adam. Et je sais qu'en tant que chrétien, je suis souvent comme ça. Je ne veux pas parler de Jésus à mes amis. Je ne veux pas prier pour la mission dans le monde. Je n'ai pas tellement envie d'inviter quelqu'un à la fête du 14 juillet que nous organisons la semaine prochaine. Mais Paul donne sa vie pour servir les autres, même si ça lui coûte cher. Parce qu'il sait que la résurrection est réelle. Donc, mes frères et sœurs, verset 58. Soyons fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. La mort a été vaincue et un jour, nous recevrons des corps ressuscités. Donc, plaçons toute notre espérance dans l'éternité et amenons autant de personnes que possible avec nous. Prions. Nous te remercions, Père Céleste, pour la victoire sur la mort que tu as accomplie. Nous sommes souvent attristés par l'état du monde dans lequel nous vivons et l'état de nos cœurs aussi. Et s'il te plaît, Seigneur, donne-nous une perspective d'éternité. Aide-nous à comprendre la portée de ton plan pour cet univers, afin que nous puissions vivre notre vie présente dans l'amour des autres et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.